Radio Kapi. Oh, Kapi.
Il est 18h à Kinshasa, 19h à Bukavu, au site Kivu. Voici les titres de ce journal vespéral. Retour ce lundi à Bukavu du gouverneur du site Kivu après environ 80 jours passés à Kinshasa sur invitation du ministre de l'Intérieur. Sa reprise de fonction est consécutive à l'arrêt de la Cour constitutionnelle qui le réhabilite dans ses fonctions. À Ituri, environ 300 vaches ont été volées hier dimanche par des éléments de la milice de force patriotique et intégrationniste du Congo lors de leur incursion dans deux villages du territoire de Djougou. Des attaques à répétition qui inquiètent les habitants de ces deux entités dont la plupart ont quitté la zone pour se mettre à l'abri. L'invité de ce journal est le sénateur Augustin Matata Mponyo. Interdit samedi soir de quitter Kinshasa pour Lubumbashi, l'ancien premier ministre s'est dit simplement victime d'une injustice. Interview à suivre à la fin de ce journal. Mesdames, messieurs, bonsoir. Le gouverneur du Sud Kivu, Théon Gwabidje-Kassi, est rentré à Bukavu ce lundi 21 février 2021. Cela après environ 80 jours passés à Kinshasa sur invitation du ministre de l'Intérieur. Sa reprise de fonction est consécutive à l'arrêt de la Cour constitutionnelle qui le réhabilite dans le conflit qui l'opposait à l'Assemblée provinciale du Sud Kivu. Des détails avec Emmanuel Elameji Wakabedi.
Le gouverneur Théon Gwabidje-Kassi est rentré à Bukavu à la mi-journée par le lac Kivu en provenance de Kinshasa via Goma. Il est accueilli par le Conseil provincial de sécurité, les membres de son cabinet ainsi que les membres des partis politiques de l'Union sacrée. Dans un court message à la foule, il dit être porteur d'un message de l'unité pour toute la population du Sud Kivu. Gwabidje-Kassi dit être prêt à collaborer avec l'Assemblée provinciale pour booster le développement de la province. Il appelle à la cohésion, à oublier le passé et privilégier le dialogue avec tous. Les deux principales institutions doivent privilégier la paix pour une bonne mise en œuvre du programme de développement de 145 territoires initié par le chef de l'État, a-t-il conclu. Signalons que les députés provinciaux du Sud Kivu avaient voté une motion de censure contre le gouvernement provincial le 2 décembre 2021 pour plusieurs griefs. Il avait fallu environ 2 mois pour voir la Cour constitutionnelle annuler la décision de l'Assemblée provinciale et réhabiliter le gouverneur et toute son équipe.
Emmanuel Elamejo Kabedi, Bukavu Radio Kapi.
Sud Kivu encore, la pluie qui s'est abattue sur la ville de Bukavu a fait des morts et des dégâts matériels importants. Des membres de familles entières ont péri dans leur propre maison, tandis que d'autres sont grièvement blessés. Le manque d'urbanisation de la ville de Bukavu et surtout les constructions anarchiques restent les principales causes des éboulements de terre. Encore une fois, Emmanuel Elamejo Kabedi.
Sur les 6 personnes qui sont mortes dans la pluie de dimanche 20 février soir, 4 sont du quartier Nyalukemba et 2 du quartier Panzi, toujours en commune d'Ibanda. Dans un ménage sur l'avenue Ikanga, le père, la mère et 2 de leurs enfants sont morts ensevelis dans l'écroulement du mur de leur maison familiale. Les secouristes sont intervenus pour sortir les corps des décombres. D'autres enfants, eux, sont grièvement blessés par ce drame. À Panzi, sur l'avenue Elila Kazaro, 2 enfants d'une même famille sont morts asphyxiés par une motte de terre. D'autres s'en sont sortis avec des blessures. D'autres dégâts, surtout l'écroulement des murs, des maisons, sont aussi enregistrés dans d'autres parties de la ville de Bukavu. À Bukavu, tout le monde est conscient que ce sont les constructions anarchiques, surtout liées à la vente et morcellement de parcelles sur des sites impropres à la construction, qui en sont les causes. Emmanuel Elamejo Kabedi, Bukavu Radio Kapi.
Manifestation ce lundi en Mbujimayi au Kassai Oriental. Des enseignants des coordinations provinciales des écoles orthodoxes et de réveil. Ces enseignants réclament le paiement de leur salaire de 8 mois. La direction provinciale des CECOP Kassai Oriental affirme que ces enseignants sont parmi les 4 coordinations des écoles conventionnées orthodoxes et de réveil désactivées depuis le mois de juillet dernier par le ministère de l'EPST pour non-viabilité. Les démarches sont en cours pour qu'une solution soit trouvée à cette situation, déclare le directeur provincial de CECOP ad intérim. Des explications avec Esther Ndalafina.
Ils étaient des dizaines devant le bureau du service d'encadrement et des contrôles de la paix des enseignants, SECOP en sigle, calicot en main, des fanfares et des sifflets. Ces enseignants des écoles conventionnées orthodoxes réclament 8 mois de salaire. Un d'eux s'exprime.
Nous sommes venus ici réclamer notre situation salariale. Nous sommes retrouvés au mois de juillet 2021 et le salaire ne sortait pas. On a mené les recours depuis juillet 2021. Il y a les documents que le ministre lui-même a signés le 10 décembre 2021 pour qu'on puisse payer tous les agents qui étaient désactivés de la liste de paie dès le mois de janvier 2022. Pendant que nous vous parlons, les listes de paie sont venues. Nous ne sommes nulle part.
Daniel Kabeya, directeur provincial de SECOP ad intérim, affirme que les démarches sont en cours au niveau du ministère pour régler cette situation.
Depuis le mois de juillet, leurs salaires ont été désactivés pour non-viabilité pour ces bureaux-là. Mais l'autorité nationale a promis qu'il leur serait accordé un moratoire jusqu'au mois de juin pour voir dans quelle mesure ils peuvent donc revenir pour remplir ces conditions-là. Nous attendons toujours de notre direction que la situation soit donc régularisée. Nous avons reçu des promesses fermes de notre directeur national disant « Attendez avec la paie du mois de février et nous attendons ».
Signalons que les bruits des manifestants n'ont pas permis aux agents de la division provinciale de l'EPST de travailler en toute quiétude. Esther Ndalafina Mbujimaï, Radio Okapi.
En Ituri, environ 290 vaches ont été volées hier dimanche par des éléments de la milice de la Force patriotique intégrationniste du Congo lors de leur incursion à Niara et à Tiendabo. Ces deux villages du territoire de Djougou sont situés à 12 km du centre-ville de Bounia. Selon des sources sur place, ces hommes armés sont revenus encore ce lundi matin, pour commettre de nouvelles exactions, mais ils ont été repoussés par des militaires de FRDC. Ces attaques à répétition inquiètent les habitants de ces entités, dont la plupart ont quitté la zone pour se mettre à l'abri. Le point avec Jean-Claude Lokidile.
C'est à deux reprises que ces militias ont attaqué hier le village Niara, d'abord vers 8 heures locales, pour emporter 73 vaches, rapporte la société civile locale. Alertés, des militaires des FADES sont vite intervenus pour chasser ces assaillants. Dans leur fuite, ils ont abandonné toutes ces bêtes volées. Celles-ci ont été restituées à leurs propriétaires, affirme notre source. Puis, peu après 13 heures, ces rebelles sont revenus en grand nombre, indiquent des témoins. Les soldats des FADES sont répliqués pour les repousser, ce qui a plongé les habitants de Bounia dans la panique générale, car ces détonations d'armes se faisaient entendre dans plusieurs quartiers au chef-lieu de la province. Des maisons de commerce ont fermé leurs portes. Certaines personnes ont passé leur nuit au centre-ville avant de regagner leur domicile ce matin, rapporte des sources sur place. Mais une autorité de coutumière jointe au téléphone déplore le vol de plus de 280 vaches par ces miliciens. Elle plaide pour le renforcement de l'effectif des soldats des FADC en vue de sécuriser la population et ses biens. Ce chef coutumier indique que c'est chaque semaine que ces hors-la-loi organisent des incursions dans cette zone. Bounia, Jean-Claude Lucky, Dile, Radio Cap.
En bref, le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, est attendu demain mardi en Ituri. Pendant son séjour de quelques heures dans cette province, il va rencontrer les autorités locales et les personnes déplacées à cause des multiples conflits. Dans son agenda, le numéro 1 des Nations Unies va rencontrer à Bounia le gouverneur de province, puis des représentants des communautés locales, avant de se rendre à Ro, dans le territoire de Djougou, où ils vont s'entretenir avec les comités des déplacés et les autorités coutumières. Au Nord Kivu, pendant ce temps, plus de 200 pirogues motorisées des pêcheurs congolais saisies en Ouganda ont été libérées ce week-end par la marine ougandaise. Cette libération intervient 2 semaines après celle des pêcheurs détenus dans des cachots dans le district de Kasese en Ouganda. C'est les résultats des négociations entre les gouvernements congolais et ougandais d'après le comité des pêcheurs de Vichumbi. La fédération des comités des pêcheurs individuels du lac Édouard Fekopeil estime que la réglementation de la pêche sur le lac Édouard du côté congolais reste la seule solution durable à cette problématique des arrestations récurrentes des Congolais par les marins ougandais. Des détails avec Denise Lukeso.
Saisies depuis 5 ans par la marine ougandaise, 270 pirogues motorisées de pêcheurs congolais ont été libérées, affirme le secrétaire général de Fekopeil. Josué Mukura souligne que le premier lot est arrivé vendredi et s'est poursuivi samedi dernier. Fekopeil se réjouit de cette libération et réitère son appel au gouvernement congolais pour organiser une pêche responsable afin d'éviter que des pêcheurs congolais ne soient des victimes d'arrestations sur les lacs Édouard.
Nous demandons vraiment ce que le gouvernement congolais n'attend pas, ce que nos pêcheurs soient arrêtés en Ouganda pour aller négocier avec les Ougandais. Mais nous voulons aussi que la frontière d'abord soit bien sécurisée par la force navale et l'ICCN, mais aussi matérialiser la frontière pour montrer la frontière entre l'Ouganda et le Congo. Mais aussi, il y a des pêcheurs qui partent en Ouganda puisque au Congo, il n'y a plus de poissons et surtout que nous avons une grande partie du lac, mais mal réglementée. Donc la solution durable, c'est réglementer la pêche au niveau congolais, voir la capacité halieutique.
Josué Mokoura ajoute qu'il y a une semaine, 30 autres pêcheurs congolais de Vichumbi ont été encore arrêtés et 10 pirogues motorisées saisies par la marine ougandaise. Goma, Denis Luke sur Radio Kapi.
Dans la province de la Tchopo, les usagers des routes Opala et Ubundu se plaignent de tracasseries civiles et militaires dont ils sont systématiquement victimes. Chaque passant est obligé de payer 10 000 francs congolais, faute de quoi il est retenu sur place. Ils sollicitent l'intervention des autorités pour mettre un terme à cette situation qui accentue leur pauvreté au quotidien. Le point avec Jacques Moukonkolé.
Au point kilométrique 8, axe Kisangani Opala, tout passant est contraint de payer 10 000 francs congolais. Il en est de même au PK5, axe Ubundu, rapporte les victimes. Le non-paiement de cette somme expose le récalcitrant à une fouille systématique au risque de tout perdre, souligne-t-elle. Témoignage.
Comment fouiller? Ils ont pris mon argent, 100 000 francs congolais. J'avais de l'argent pour acheter du sel avant de regagner mon champ. J'ai trouvé trois militaires à la barrière, à deux PK8. J'avais 2000 francs, je leur ai remis, mais quand ils ont contrôlé, ils m'ont ravi 30 000 francs.
Ces traitements font partie du lot quotidien des usagers de ces routes. Le président de Saouti Yalubunga, héritier Isomela, ne s'explique pas la multiplicité des services et surtout la présence de certains services non attitrés à ces postes.
Pourquoi il y a la présence de la garde républicaine au niveau du PK8? Il y a également le service taxe vélo de la commune. Il y a également le service taxe vélo du secteur Lubuya. Nous avons au moins 5 services qui sont également installés à côté de services attitrés qui tracassent la population.
Selon des sources proches du ministère provincial de l'Intérieur, le comité de sécurité est déjà saisi de cette situation. Une descente avec les commandants de la 31e région militaire est prévue incessamment sur les lieux afin d'y remédier. Jacques Moukonkolé, Kisangani, Radio Kapi.
Lutte contre le paludisme, le VIH-Sida et la tuberculose. La RDC, parmi les 5 pays africains choisis pour co-préparer du 23 au 24 février prochain par visioconférence la 7e reconstitution du Fonds mondial pour la période 2023-2024. Information livrée à Kinshasa par la plateforme des organisations de société civile congolaises engagées dans les plaidoyers en faveur de ce fonds. Les autres pays du continent sont le Kenya, le Sénégal, l'Afrique du Sud et le Rwanda. Selon Maxime Lungu, coordonnateur national des Amis de Damien et de Stop Tuberculose, le Fonds mondial est le plus grand partenaire de la RDC dans la lutte contre ces maladies avec des retombées positives. Ces propos ont été recueillis par Honoré Missenga Kalala.
Alors les retombées, oui, il faut parler en termes d'augmentation des vies sauvées. Le VIH n'est plus vraiment un problème. Il y a même les tests volontaires qui se font d'ailleurs. Avant, c'était vraiment des tests obligatoires. Après, c'était des tests conseillés. Mais aujourd'hui, les tests VIH, c'est volontaire. Et même pour la tuberculose, la stigmatisation diminue. Le Fonds mondial, il est un grand partenaire. Par exemple, en ce qui concerne la prise en charge de la tuberculose, le Fonds mondial contribue à la hauteur de 75% des médicaments anti-tuberculés en RDC. Alors que nous avons en moyenne par an plus de 20 000 malades de la tuberculose en moyenne par an. Vous comprenez que si nous, société civile, nous nous mettons debout pour soutenir les efforts du Fonds mondial, parce qu'il y a beaucoup de vies qui sont sauvées, que ce soit pour la tuberculose, le paludisme et même pour le VIH-Sida.
D'après la même source, la RDC avait contribué une grande première jusqu'à 6 millions de dollars américains à la 6e reconstitution du Fonds mondial pour la période 2021-2023. La société civile congolaise s'en félicite et encourage le gouvernement congolais à contribuer davantage. Le programme des travaux prévoit d'ailleurs une prise de parole du président Félix Tshisekedi aux travaux préparatoires de la 7e reconstitution.
Actualité internationale.
La nouvelle charte de la transition au Mali a été adoptée à l'unanimité ce lundi par les membres du Conseil national de transition, le CNT, qui fait office d'organe législatif provisoire dans le pays depuis la prise de pouvoir par des militaires. Cette charte présente plusieurs nouveautés. Il y a déjà le nombre de parlementaires désignés et non élus qui passe de 121 à 147 et pour la durée de la transition. Dans le texte, il est aussi écrit que les prochaines élections présidentielles, dont la date n'est pas encore connue, vont marquer la fin de la transition. L'ex-président de la Géorgie, Mikhail Saakachvili, désormais chef de file de l'opposition, a annoncé ce lundi qu'il entamait une nouvelle grève de la faim pour protester contre les conditions d'incarcération après celles menées l'an dernier pendant 50 jours.
L'invité.
L'invité de ce journal est le sénateur Augustin Matata-Mponyo. L'ancien premier ministre a été interdit samedi soir de quitter Kinshasa par l'aéroport de Ndjili alors qu'il voulait se rendre à Lubumbashi pour enterrer sa jeune sœur. Augustin Matata-Mponyo s'est dit simplement victime d'une injustice. Il s'est entretenu avec Noëlla Lutito-Kabambi.
Sénateur Augustin Matata-Mponyo, bonjour.
Bonjour, madame.
Le samedi 19 février, vous avez été empêché de voyager pour Lubumbashi pour aller enterrer votre jeune sœur. Quelles sont les raisons qui vous ont été données par le service de migration?
Je vous dirais, en principe, il n'y a aucune raison au jour d'aujourd'hui qui pourrait m'empêcher de voyager librement à l'intérieur comme à l'extérieur du pays. Comme vous le savez, à la suite des poursuites judiciaires dont je fais l'objet, la Cour constitutionnelle a rendu un arrêt qui indique l'incompétence de la Cour constitutionnelle à pouvoir juger un ancien Premier ministre que je suis. Et le même arrêt de la Cour constitutionnelle souligne qu'un ancien Premier ministre, comme d'ailleurs un ancien président de la République, ne peut être jugé par aucune juridiction d'ordre judiciaire lorsqu'il a terminé son mandat pour de faits commis en l'exercice de ses fonctions. L'article 168 de la Constitution, alinéa 2, indique que les décisions de la Cour constitutionnelle sont exécutoires immédiatement et s'imposent à tout le monde dès la présence de la République aux citoyens le plus petit. Maintenant, pour répondre à votre question, lorsque je suis arrivé à l'aéroport avec mon épouse, parce que je devais aller enterrer ma jeune sœur, celle qui vient juste après moi, il m'a été dit par le chef de section aéroport de la Direction Générale des Migrations que M. Matata, vous n'êtes pas autorisé à voyager. Je lui ai posé la question, mais qui m'interdit de voyager? J'ai dit, c'est une décision qui vient d'en haut. Je suis étonné, parce que j'étais à l'extérieur du pays, madame. Je suis rentré dans mon pays, donc si je devais fuir, je devais rester dans ce pays. Je suis rentré, je suis allé devant la justice pour témoigner mon innocence, parce que je n'ai pas pris $1 dans le projet Bukangalonzo. C'est de l'injustice que nous sommes en train de vivre.
Mais qu'est-ce qui peut être à la base de cette injustice, justement?
C'est la question que tout le monde se pose, moi aussi. Mais qu'est-ce qu'on veut à M. Matata? Que je quitte la RDC ou que je m'étude? J'ai été empoisonné lorsque j'étais auditionné au parquet par la Cour constitutionnelle. Quand j'ai demandé l'autorisation d'être soigné, tout le monde a refusé.
Où en est-on à ce jour avec la question de recouvrement de vos immunités?
Mais en principe, madame, mes immunités, je les ai. Je ne les ai pas du fait de M. Matata, je les ai du fait de la Constitution de la République. Parce que mais un président du Sénat n'est pas au-dessus de la Constitution de la République. Donc mes immunités, en principe, je les ai. Mais le problème, c'est que la Direction générale d'immigration refuse d'appliquer la décision de la Cour constitutionnelle. Que dois-je faire? Je suis prisonnier politique dans mon propre pays. Et pendant ce temps, on chante l'état de droit. L'état de droit, on le voit dans le concret, dans la protection des libertés des individus. Lorsque vous pouvez empêcher un sénateur qui a totalement recouvré ses immunités de voyager parce que c'est une décision d'en haut, c'est ça qu'on appelle l'état de droit.
Sur le plan judiciaire, y a-t-il encore une quelconque affaire dans laquelle vous êtes poursuivi?
Non, en principe, madame, il n'y a aucune autre affaire. Toutes les actions qui ont été menées par le procureur général près la Cour constitutionnelle ont été jugées anticonstitutionnelles. Vous savez, madame, lorsque la démarche visant à lever mes immunités sur les dossiers Bukangalonzo a échoué, le président du Sénat, Modeste Bahati, en complicité avec le procureur général près de la Cour constitutionnelle, ont monté de toutes pièces un dossier sur les biens aériennisés pour détournement des $140 millions qui ont été payés à des personnes fictives. Tout a été fait pour que je ne bénéficie pas des documents pour me justifier. Dieu aidant, j'ai trouvé tous les documents et le procureur général Mukolo a été obligé devant mon avocat de dire « Je vous demande pardon, je présente mes excuses, votre dossier est vide, il doit être classé sans suite. » Mais ce même procureur général Mukolo, qui se croit tout puissant et au-dessus de la Constitution, ne veut pas classer les dossiers. Tout ce que moi je peux dire, c'est demander aux institutions politiques de ces pays de respecter les décisions de la justice. Enfin, je demande à toute la population congolaise de suivre cette question de près. Parce que si aujourd'hui cela arrive à M. Matata, qui est traité de manière injuste dans son propre pays, mais cela peut arriver à une autre personne.
Sénateur Augustin Matata Mponyo, je vous remercie.
Merci beaucoup, madame.
C'était notre invité, le sénateur Augustin Matata Mponyo, qui s'entretenait avec Noëlla Luzitu-Kabambi. Et c'est la fin de ce journal. Vous pouvez continuer à les réécouter sur toutes les plateformes numériques des Radio Okapi.